C'est un privilège, n'est-ce pas, lorsqu'on se trouve dans la présence du Seigneur, c'est un privilège de pouvoir fêter ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ce matin, donc, le Saint-Esprit a déjà bien introduit notre thème pour ce matin à travers tout ce qui a été partagé, en particulier ce que Espérance a partagé tout au début du culte et puis en introduction à la Sainte Cène. Puisque donc, aujourd'hui, je vous invite à trouver Éphésiens chapitre 3. Ce matin, on va se concentrer surtout sur Éphésiens 3, les versets 14 à 19, qui commencent avec une petite phrase qui dit « à cause de cela ». Ce qui donc nous indique que si on veut savoir de quoi l'apôtre Paul veut parler, et le Saint-Esprit veut nous parler, il va falloir regarder un peu en avant, puisque donc il dit « à cause de cela », donc à cause de tout ce que je viens de dire. Donc on est obligé de reculer un peu, et on arrive donc au premier verset du chapitre 3, où finalement l'apôtre Paul commence aussi avec la même phrase « à cause de cela ». Donc on se rend compte que tout ce qui se trouve entre les versets 2 et le verset 14, c'est comme une petite parenthèse où l'apôtre Paul donc, se lance sur base de ce qu'il dit dans le premier verset. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. » Puis il commence sur toute une pensée concernant son ministère avant de revenir dans le verset 14 sur « à cause de cela ». Sauf que on n'a toujours pas la réponse à la question « à cause de quoi ?». Donc on recule encore un peu plus, et dans le verset 11 du chapitre 2, on voit « c'est pourquoi ». Là, à nouveau, il est toujours en train de dire « à cause de ce que je viens de dire, c'est pourquoi ». Mais donc on est toujours en train de se dire « de quoi est-ce qu'il parle ?». Quel est ce base sur lequel il va fonder tout le reste de ce qu'il dit? Et donc, en fait, on trouve que pour arriver à bien comprendre ce que le Seigneur a à nous dire à partir, dans le passage de versets 14 à 19 du chapitre 3, on a besoin de commencer au début du chapitre 2 d'Éphésiens, ce que Espérance nous a gentiment lu en introduction à la Sainte Cène. Donc, Paul commence par parler du statut de ceux qui ne connaissent pas Christ. Nous étions morts, donc il dit, peu importe qui on est, nous étions tous donc en rébellion contre Dieu. Mais Dieu, chapitre 2, verset 4, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus vivants avec Christ. Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Puis donc, on va continuer là où Espérance a arrêté, donc verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de grâce de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En fait, donc, à cause de tout ce que Paul établit dans le chapitre 2 et début du chapitre 3, à la fin de ce chapitre, Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse. Il prie pour eux à cause de la grâce que Dieu leur a faite. Il leur dit, pour la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas juifs de naissance. Bon, s'il y en a parmi nous ce matin qui sont de naissance juive, je m'excuse, mais je pense que la plupart d'entre nous se trouvent dans la même situation que ces chrétiens d'Éphèse. C'est-à-dire, de naissance, nous n'étions pas des Juifs, donc nous n'étions pas dans cette alliance avec le Dieu du peuple juif. Puisque finalement, l'apôtre Paul part de la base de la révélation biblique en disant « Il n'y a de toute façon qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël qui a fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob et par la suite avec toute cette famille qui a fait alliance au moment de Moïse. » Et donc il dit toute cette histoire, tout ce plan, toute cette occasion de connaître le seul vrai Dieu, d'avoir l'espoir en lui, ça ne vous concernait pas. Vous étiez laissés en dehors de tout ça, mais maintenant, en Jésus-Christ, Dieu vous a fait la grâce à vous aussi de vous inviter à entrer dans son projet, dans son royaume, et de partager avec vous toutes les promesses qu'il avait faites au peuple juif par le passé. Tout ce projet, toute cette alliance qu'il avait faite avec eux, maintenant, par sa grâce, il vous donne aussi la possibilité de profiter. Pour ça que dans le verset 15, lorsqu'il y pense, quand il dit « à cause de cela », il souligne qu'il est en train de prier le Dieu qui est finalement notre Créateur à tous, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ce Dieu qui finalement montre bien en Jésus-Christ que même si il a choisi le peuple juif parmi tous les autres peuples de la terre, même s'il a fait alliance avec eux et leur a donné les prophéties et les promesses, il ne fait pas de favoritisme. Il dit tous, quel que soit notre arrière-plan, nous avons besoin d'être bénéficiaires de la grâce de Dieu. Paul dit, vous étiez morts dans vos péchés. Il dit, en réalité, nous aussi, on était de leur nombre, on était comme eux, on était morts dans notre péché jusqu'à ce que Dieu nous fasse sa grâce. On est tous dépendants de sa grâce et tout est le résultat de la grâce que Dieu nous fait. Ça n'a rien à voir avec notre naissance. On ne naît pas membre du royaume de Dieu. On ne naît pas juste aux yeux de Dieu. On est pécheurs de par notre naissance et nous avons besoin de recevoir la grâce de Dieu. Quel que soit notre arrière-plan, quel que soit notre statut social, même quels que soient nos mérites. Il n'y a personne parmi nous capable de mériter ce que Dieu nous a donné par la grâce. Tout, dit-il, est dû à l'œuvre et à la perfection de Jésus. Tout espoir qu'on puisse avoir de connaître Dieu, d'être accepté par Dieu, d'avoir un avenir avec lui, est dû au fait que Jésus-Christ est parfait et qu'il est mort pour nous et qu'il a ressuscité pour nous. Mais à cause du fait que ce Christ parfait est mort pour nous, qui nous offre sa grâce d'entrer dans son royaume, à cause de tout cela, Paul maintenant prie pour les chrétiens d'Éphèse avec confiance. Il dit, à cause de cela, je prie pour vous. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, verset 14, dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Paul donc prie avec confiance pour ses chrétiens parce qu'il est convaincu que ce qu'il est en train de prier est selon la volonté de celui qui leur a fait cette grâce de faire d'eux son peuple, de les faire bénéficier de toutes ses promesses et de leur donner cet avenir avec lui. Et puisque Paul commence sa prière par la phrase « à cause de cela », à cause de cette grâce que Dieu vous a fait, à cause de l'action de Dieu dans votre vie, je prie ceci. Ça veut dire que si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, même si on habite dans un autre endroit, à une autre époque de l'histoire que ces chrétiens d'Éphèse, nous pouvons prier la même chose pour nous que ce que l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens, parce que finalement, nous connaissons la même grâce et le même salut qu'eux. Parce que nous nous trouvons dans exactement la même situation qu'eux. Éloignés partout du projet de Dieu, de la présence de Dieu, du royaume de Dieu, et pourtant Dieu qui nous fait grâce dans son amour, dans sa miséricorde, pour nous sauver, pour nous faire entrer dans son royaume, nous donner cet espoir de faire partie de son peuple, être bénéficiaire de ses promesses. Et donc nous pouvons prier la même chose. Parce que c'est ce nouveau statut que nous recevons en Jésus-Christ qui nous donne la confiance de pouvoir venir devant Dieu et de pouvoir prier la même prière pour nous. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur qu'eux, ce n'est pas parce que nous habitons au Luxembourg et que nous avons accès à tant de choses, ce n'est pas parce que nous sommes membres de la rencontre, ce n'est pas parce que l'homme en 2024 est plus avancé qu'il y a 2000 ans, c'est simplement parce que Dieu nous a fait grâce. Et parce que Jésus-Christ est toujours parfait. Et parce que Jésus-Christ est toujours notre sauveur, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est sur lui que nous sommes fondés, et c'est lui qui nous donne cette confiance devant Dieu. Dans le verset 11 du chapitre 3, Paul parle de ce dessein éternel que Dieu a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Si donc notre vie est fondée en lui, nous aussi nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Hébreux chapitre 4, verset 16 nous parle aussi d'approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Nous pouvons donc prier la même prière que Paul a priée pour les Éphésiens, avec la même confiance qu'avait l'apôtre Paul lorsqu'il a prié pour eux. Et donc, ce que Paul prie, c'est que Dieu mette tout en œuvre pour que leur foi devienne une réalité quotidienne dans leur vie. À cause de cela, donc parce que Dieu vous a pris, vous a montré sa miséricorde, dans son amour vous a fait grâce et vous a sauvé, vous a fait de vous des gens concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, fondés en Jésus-Christ, à cause de cela, je fléchis les genoux devant lui, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ici, Paul est en train de prier, non pas pour des gens de dehors qu'ils découvrent la foi, non pas qu'ils mettent leur foi en Christ pour découvrir cette grâce de Dieu et avoir la vie. Il prie pour des gens qui, il a déjà montré dans le chapitre 2, ont reçu cela, ont mis leur foi en Christ et par le moyen de la foi ont reçu la grâce de Dieu pour être sauvés. Mais il dit maintenant, sur cette base-là, à cause de cela, je prie pour vous afin que Dieu, par son esprit, vous fortifie puissamment dans votre homme intérieur, pour que Christ habite dans vos cœurs. Mon objectif, dit-il, c'est que vous soyez pas simplement des chrétiens avec une foi un peu vague, un peu théorique, une foi qui est juste fondée sur telle ou telle confession de foi où vous avez accepté d'être de telle ou telle foi. Ce que je prie pour vous, dit-il, c'est que le Saint-Esprit vous travaille, vous fortifie afin que Christ habite réellement dans votre cœur. Pour que, au-delà de votre théologie, vous ayez cette relation personnelle avec Dieu où Jésus-Christ est en train de vivre par l'Esprit dans votre cœur, pour que votre foi soit une réalité tous les jours de votre vie. Je prie pour vous d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Il dit là aussi, c'est une question de foi. Il faut croire que le Seigneur est fidèle à ses promesses. Il dit, je prie que le Saint-Esprit vous fortifie dans l'homme intérieur pour que vous croyiez vraiment aux promesses de Dieu. C'est facile de dire qu'on croit aux promesses de Dieu. C'est facile de dire, oui, moi ma théologie est juste et correcte, je crois à la Bible. Mais Paul prie que par le Saint-Esprit, ils y croient réellement, au point que la foi soit une vérité vivante dans leur vie. Par la foi, qu'ils croient réellement suffisamment de vivre, de faire l'expérience des promesses de Dieu, telles qu'Apocalypse 3:20, quand Jésus dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Je prie, dit Paul, que vous puissiez croire réellement dans cette promesse pour que, par la foi, le Seigneur Jésus entre réellement dans votre vie, soupe réellement avec toi et toi avec lui. Pour que, par la foi, vous fassiez l'expérience de Jean 14, 23, quand Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Je prie donc, dit Paul, que le Saint-Esprit vous fortifie dans votre intérieur pour que par la foi, cette promesse devienne réalité. Colossiens 1, 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et donc, je prie, dit Paul, que le Saint-Esprit vous travaille dans l'homme intérieur pour que Christ soit réellement en vous par la foi. Pour que ce ne soit pas juste quelque chose de distant et théorique où vous dites « Oui, ben, j'ai la foi pour être sauvé. » Mais je prie, dit-il, pour que maintenant, cette grâce de Dieu va jusqu'au bout de son œuvre et par son esprit, il vous travaille à l'intérieur pour que Christ habite réellement, pour que ses promesses deviennent réalité par la foi dans votre vie. Pour que par la foi, nous puissions réellement devenir temple du Saint-Esprit. Ces versets, ces promesses ne sont pas juste une théorie dans laquelle on dit croire. Ou on dit oui, c'est écrit dans la Bible. Paul dit par la foi, ces choses sont censées être la réalité de votre vie. Et donc je prie que Dieu fasse l'œuvre en vous pour que ces choses soient réellement une réalité vécue dans votre vie tous les jours. Et puis donc, il continue sa prière avec une deuxième partie qui va être liée à ce qu'il a déjà dit dans la première partie par le thème de l'amour de Dieu, parce qu'il a dit que tout est fondé dans l'amour de Dieu, tout est par grâce, parce que la grâce est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Espérance, en tout début du culte, nous a lu Jean 3, 16, qui nous rappelle que cette grâce que Dieu nous a fait d'envoyer Jésus-Christ pour que nous puissions entrer dans ses promesses, entrer dans son royaume, c'est par amour, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, Paul, maintenant, va prier que cet amour qui est la cause de la grâce soit également, véritablement, le fondement de leur vie tous les jours. Verset 17, « Étant enracinés et fondés dans l'amour, Ils désirent que donc leur vie soit réellement bâtie sur l'amour de Dieu, que ce soit le fondement, cet amour divin, amour partagé avec Dieu, mais amour partagé aussi les uns avec les autres, comme Jésus le décrit dans Matthieu 22, versets 35 à 40. Lorsqu'un docteur de la loi lui posa cette question pour l'éprouver, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Cet amour partagé avec Dieu, amour que Dieu a manifesté le premier pour nous en l'envoyant Christ pour nous faire grâce, mais amour qui trouve un écho, une réponse en nous. Nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et c'est intéressant à voir si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 11, cet acte que nous avons refait ce matin de prendre la Sainte Cène. La Bible lit à nouveau cet acte avec ces deux aspects d'amour comme fondement de notre vie. Amour pour Dieu, mais aussi, si vous lisez ce texte dans 1 Corinthiens 11, amour les uns pour les autres, où il dit, vous n'êtes pas juste dans une petite bulle individuelle, toi avec Dieu, vous êtes réunis en tant qu'Église de Jésus-Christ, tous ensemble devant votre Seigneur qui vous a sauvés. Et c'est marqué par le fait donc de prendre cette Sainte Cène tous ensemble. Et donc Paul prie que cet amour de Dieu soit vraiment le fondement de leur vie. Et pour que ce soit un fondement solide pour leur vie, sa prière pour les chrétiens, donc la prière que nous pouvons appliquer à nous-mêmes, c'est que vous puissiez comprendre avec tous les saints à nouveau quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Il prie que vraiment les chrétiens saisissent à quel point Dieu nous aime, pour que nous puissions être vraiment enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Ces paroles de Paul rappellent un cantique pour les enfants que sûrement ceux qui sont passés par une école du dimanche quelque part vous connaissez. Bon, je vais vous épargner le fait de le chanter en faisant des gestes tout de suite. Mais le chant qui dit « L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh l'amour de Dieu si haut qu'on ne peut passer dessus, si profond qu'on ne peut toucher le fond, si large qu'on ne peut en faire le tout. Oh, l'amour de Dieu. » C'est la prière de Paul pour les chrétiens qui se rendent compte qu'il n'y a pas moyen de passer par-dessus l'amour de Dieu tellement c'est haut, pas moyen de passer en dessous tellement c'est profond, pas moyen de le contourner tellement c'est large, que vous puissiez comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Parce qu'il dit, si vous arrivez à saisir à quel point l'amour de Dieu pour vous est immense, vous serez réellement enraciné et fondé dans cet amour qui bannit la crainte, puisque Paul va dire, la crainte vit dans la peur d'un jugement à venir. Mais l'amour de Dieu est tellement immense que cet amour bannit la crainte. Donc si nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, on n'a plus besoin de vivre dans cette crainte. Parce que connaître combien Dieu nous aime nous aidera à traverser toutes les circonstances de la vie. C'est ce que Paul souligne dans Romains chapitre 8 à partir du verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Avec cet amour infranchissable, immanquable, immense. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour cela que la Bible dit, quand Jésus-Christ, Dieu a libéré ceux que le diable retenait captifs par la crainte de la mort. Parce qu'il dit, pourquoi craindre la mort? La mort peut mettre fin à la vie de ce corps sur terre, mais ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu. Pour ça que, dès le début de l'époque de l'Église, il y a eu des martyrs, parce qu'ils ont dit, le pire que vous puissiez faire, c'est mettre à mort mon corps. Mais vous ne pouvez pas me séparer de l'amour de Dieu, tellement cet amour de Dieu pour moi est immense. Donc faites tout ce que vous voulez, mais vous n'allez pas pouvoir me séparer de cet amour. Donc ça a ôté cette crainte. Il y en a qui vivent dans la crainte des esprits, des condamnations, des anges, des dominations. Mais Paul dit, peu importe. Si c'est une créature physique, visible sur terre, ou si c'est une créature spirituelle, ils sont incapables de nous séparer de l'amour de Dieu, tellement l'amour de Dieu pour nous est grand, et donc vous n'avez rien à craindre de ces choses. Si vous êtes enracinés et fondés dans l'amour de Dieu avec cette confiance, cette assurance que donne le fait de connaître l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Car si ce Dieu qui nous aime avec un amour pareil est pour nous, qui peut être contre nous? Mais au-delà de toute question théorique, de connaissance théorique de l'immensité de l'amour de Dieu, il dit ça c'est bien, je désire que vous puissiez avec tous les saints comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Parce que ça vous permettra d'être réellement enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Et cela transformera votre expérience de la vie. Mais surtout, avant même de au-delà même de cela, je prie que vous puissiez connaître l'amour de Christ. Faire l'expérience personnel de l'amour de Christ. Je veux que vous puissiez comprendre à quel point Dieu vous aime. Mais je veux, après avoir compris cela, que vous puissiez en faire l'expérience. C'est pour ça que je désire que vous le compreniez, que vous vous rendez compte de combien Dieu vous aime. Parce que ma prière pour vous, c'est que vous puissiez connaître cet amour. Que cet amour soit une réalité dans votre vie, soit réellement le fondement de votre vie. C'était la prière de Paul pour les chrétiens d'Éphèse. Si l'apôtre Paul était encore en vie, ce serait sa prière pour nous aujourd'hui. C'est ce que nous pouvons prier pour nous-mêmes, puisque nous avons la même base que les chrétiens d'Éphèse. Nous sommes sauvés par le même Seigneur. Nous avons reçu la même grâce. Nous sommes fondés dans le même sacrifice de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, approprions cette prière pour nous-mêmes. Faisons de cette prière que Paul a priée pour les chrétiens d'Éphèse notre prière pour nous-mêmes. Qu'à cause de la grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ, à cause de la miséricorde qu'il nous a montrée, qui est fondée dans son amour pour nous, fléchissons les genoux devant le Père, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Étant enracinés et fondés dans l'amour, que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ pour nous, et que nous puissions connaître l'amour de Christ qui, en plus, dit Paul, surpasse toute connaissance. Même si on pense avoir saisi à quel point Dieu nous aime, Paul dit que ça vous dépassera toujours. Ça sera toujours encore plus grand que ce que vous n'imaginez. En sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.